Bonjour à tous et à toutes, professeurs, musiciens, compositeurs, étudiants, mélomanes. Merci aussi à Philippe Manoury et au comité d'organisation de ce colloque pour l'invitation à vous parler aujourd'hui. Dans sa leçon inaugurale du 26 janvier 2017, Philippe Manoury énonçait que la connaissance du son a souvent exercé une influence déterminante sur les théories de la composition, soulignant de ce fait que les techniques de composition sont tributaires, entre autres, de la connaissance du phénomène sonore. À partir de ce point, nous allons essayer de comprendre comment ces connaissances du son, notamment celles portées par les descripteurs sonores ou descripteurs audio, ont été intégrées récemment dans la composition musicale et quelles possibles conséquences pour l'écriture musicale et pour notre conception du timbre. Premièrement, faisons une courte récapitulation ou peut-être une courte introduction. Qu'est-ce qu'un descripteur sonore ou qu'est-ce qu'un descripteur audio ? Très brièvement, je vous donnerai les exemples par la suite. On peut dire qu'un descripteur sonore ou un descripteur audio est un paramètre uni ou multidimensionnel ramenant une dimension particulière de ce signal à un ou plusieurs paramètres numériques. Son évolution temporelle peut être utilisée pour représenter, caractériser, illustrer un flux ou une évolution d'événements sonores. Pour vous donner quelques exemples de descripteurs audio, nous avons par exemple l'amplitude, l'énergie, la sonie, la fréquence fondamentale, la brillance, l'écart type spectral, la rugosité, le flux spectral, les chromas, etc. En effet, toute information qu'on puisse calculer à partir d'un signal audio. Vous trouverez une partie de ces descripteurs dans le déjà célèbre rapport de Jovra Peters de 2004. Mais pour vous donner quelques exemples de ces descripteurs, commençons par trois descripteurs qui ne sont pas les mêmes, mais qui sont pourtant très corrélés entre eux, l'amplitude, l'énergie et la sonie, loudness en anglais. Dans l'image que vous avez sous les yeux, vous pouvez observer ces deux courbes jaunes. Elles correspondent à l'évolution de la sonie dans une interprétation de la berceuse en ré bémol majeur, opus 57 de Chopin, l'une par Pollini, l'autre par Chebanova. On remarquera par exemple que chez Pollini, la variation est entre 0 et presque 12 sons, avec des grandes variations d'intensité, pendant que chez Chebanova, le registre de variation n'est que la moitié, avec une interprétation plus lente et beaucoup moins dramatique. Cela pour vous dire que les mesures d'évolution de l'amplitude, énergie ou sonie nous donnent d'informations précieuses sur le phrasé et l'interprétation musicale. Un court exemple ici, bon, je ne vais pas le jouer, c'est des choses que vous connaissez bien, les quatre premières mesures du fameux prélude du clavier bien tempéré de Bach avec trois interprétations. Un autre descripteur, la fréquence fondamentale. En plus de nous aider à déterminer la hauteur perçue, dans le cas de la parole, il est très important parce qu'il fait partie, comme vous a montré Nicolas Aubin, il fait partie de cette chose qu'on appelle la prosodie. Je vous donne trois courts exemples de textes parlés. Vous allez suivre les courbes bleues qui sont la fréquence fondamentale. Et vous allez voir comment elles sont corrélées à cette chose qu'on appelle la prosodie.
Tenait dans son bec un fromage.
Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait dans son bec un fromage.
Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait dans son bec un fromage.
Voilà. Un autre descripteur très célèbre est la brillance sonore, aussi connue comme centroïde spectrale ou barycentre spectrale. Ce descripteur mesure la moyenne des fréquences pondérées par les amplitudes des bandes spectrales dans un spectre instantané. Je pense que le plus simple, c'est de vous faire voir un court film. Vous allez voir un son qui bouge. En bas, vous verrez le spectre instantané de ce son. Et la petite barre jaune vous montrera qu'est-ce que c'est, où se positionne le centroïde spectral. Et vous aurez sa valeur aussi. Vous remarquerez qu'il est une bonne indication de la brillance, de la tonalité d'un son. Dans certains cas particuliers, il peut être aussi une bonne indication d'un mode de jeu, comme par exemple dans le passage d'ordinario à cuivré pour une trompe. Depuis les premières études sur ce qu'on nomme de nos jours l'espace des timbres, ce descripteur apparaît toujours dans les premières positions comme étant une des composantes importantes dans notre perception de la couleur sonore. Un dernier exemple, le vecteur de chroma. Ce descripteur représente l'énergie par demi-temps tempérée réduite à l'octave dans le spectre sonore. Dans certaines recherches, ce descripteur est à la base de la détermination automatique de l'harmonie dans des morceaux de musique. Dans l'extrait vidéo qui suit, vous remarquerez que vous pouvez presque suivre l'harmonie note à note par les valeurs ici du vecteur de chroma. Je m'arrêterai ici puisqu'il existe beaucoup d'autres descripteurs, ce dont il est important de prendre acte est le fait que ces descripteurs sont des représentations très primaires, des mesures physiques, des points de vue très partiels sur le son et qu'on n'arrive pas toujours à leur donner un sens musical ou perceptif. Si les descripteurs audio sont connus depuis les années 70 et ont commencé à être massivement utilisés en composition depuis le début des années 2000, les compositeurs ne les ont pas attendus pour utiliser des connaissances physiques sur le son comme élément d'écriture. De François Bernard Mache dans les années 60, avec ses phonographies, en passant par l'école dite spectrale avec Gérard Griset qui développera l'idée d'une synthèse acoustique, par Trevor Richard, Clarence Barlow avec son idée de synthromentation, Tristan Murat, Emmanuel Lindberg, Kaya Sario, Jonathan Harvey, Claudie Malherbe, Joshua Finberg, et bien d'autres, il y a eu un grand développement de techniques d'écriture pour la musique instrumentale et électronique reposant sur l'extraction de paramètres physiques du son et en les adaptant à différentes esthétiques. Mais c'est à la fin des années 1990, début des années 2000, qui commencent les grands projets de MIR, Music Information Retrieval, principalement poussés par la croissance de la musique sur des supports numériques. À l'époque des baladeurs MP3, des smartphones, de la musique dématérialisée, de la musique en ligne, la problématique est de pouvoir gérer, naviguer, choisir dans un ensemble de milliers de morceaux, sinon plus. De ce fait, un nombre considérable de recherches et de développement d'outils en furent dédiés. Le fait de pouvoir accéder à des outils intellectuels et logiciels a permis à des compositeurs de développer leurs techniques d'écriture et leurs esthétiques fondées sur l'utilisation de descripteurs. De nos jours, un grand nombre de compositeurs utilisent les descripteurs en composition. Ils ne sont pas, hélas, tous là affichés. Sans le recul nécessaire qu'on aura dans une dizaine, voire une vingtaine d'années, je dirais qu'il y a deux grandes familles de techniques d'écriture utilisant des descripteurs en composition, hors les esthétiques. J'ai regroupé certaines formes et vous verrez que dans certains cas, les frontières sont très fines entre les catégories que je vous propose, tenant quelquefois qu'à l'intention du compositeur. La première famille de techniques correspond à ce que j'ai dénommé sonification, mapping, mise en correspondance, détection, suivi. Et la deuxième, aux techniques utilisant des larges bases de données de son, clustering, classification, orchestration, mosaïcing, transcription, gesture mapping, contrainte sur l'espace. Dans la famille de sonification, mapping, détection, suivi, je considère que l'hypothèse sous-jacente à cette famille de techniques est le fait de considérer l'évolution des descripteurs comme porteuse d'informations sur le phénomène musical en question, information qui sera utilisée pour les traduire dans un espace autre comme celui de la synthèse ou des transformations en temps réel, la sonification et le mapping, pour détecter des saillants, seuils ou des configurations en modélisant localement certains aspects du phénomène musical par un ou par un ensemble de descripteurs, et pour construire un modèle du phénomène de suivi, comme par exemple dans Omax, en Tescofo, dans le suivi de voix, le gesture follower et dans un tas d'autres outils. En général, je considère cette famille de techniques comme un développement du travail de suivi de la fréquence, de suivi de partition, de l'amplitude, d'ensemble, de partiel ou de la rugosité, bien connue en musique mixte. Voyons quelques exemples très brièvement. quelques-uns, je suis désolé, je vais simplement parler sans donner vraiment d'exemple musical. Le premier, très vite, c'est le travail qui a été fait dans La Muette de Florence Bachet pour voix et ensemble électronique, où il y a l'utilisation continue d'un suivi de la voix avec un descripteur qu'on appelle des MFCC, par le biais d'un outil IRCAM qui s'appelle le Gesture Follower. Le suivi, dans ce cas, ne s'appuie pas sur des auteurs, mais sur des descripteurs, quelque chose d'autre que les paramètres déjà connus en composition. Très brièvement aussi, dans le travail de composition de Tensio, Philippe Manuri a fait des recherches avec des réalisateurs en informatique musicale, Archia Comte et Gilbert Nounot, sur la détection d'auteurs, détection de début et de fin de notes, détection du tempo, analyse d'énergie, kurtosis, utilisation du stimulus pour la détection des modes de jeu. Cependant, ça a été plutôt les détections de début et de fin de notes qui ont été utilisées pour le contrôle de la synthèse 3F. Un autre exemple, encore sans d'exemples musicaux, mais simplement pour vous donner l'idée, pour la pièce « Dans la crêpe » de Marta Gentilucci, la compositrice a utilisé le second tristimulus, dont vous voyez ici l'évolution, je vous donnerai l'exemple, pour la détection du rythme d'un trémolo de voyelles. C'est là avec l'objectif de contrôler par la suite dans l'œuvre une banque d'harmoniseurs en temps réel. Dans l'œuvre « Dispersion de trajectoire saxe électronique » de José Miguel Fernandez, il y a une grande utilisation des descripteurs audio en temps réel de deux manières. La première étant la détection de seuil de la variation spectrale et de configuration à partir du couple déviation spectrale et énergie du bruit, pour notamment déclencher ce qu'on appelle des frises, des gels ou des blocages dans l'électronique. On va écouter un court extrait. Essayez d'écouter l'électronique qui va avec. La seconde manière étant la mise en correspondance du centroïde spectral avec la fréquence de lecture de table d'onde et aussi la détection de seuil pour les déclenchements de frise. Ici, dans le prochain extrait, les deux techniques vont être utilisées ensemble. Essayez d'écouter dans l'électronique pour remarquer les moments où les traitements sont déclenchés. Dans une autre œuvre, Raj di Stringhe, violon plus électronique de Lara Morciano, nous avons à peu près les mêmes procédures. Par exemple, l'utilisation du couple d'énergie totale et de quantité de bruit pour déclencher des interpolations de configuration de paramètres. Dans ce cas précis, plus les valeurs de ces couples sont grands, sont hauts, plus on aura la probabilité d'avoir un mode de jeu bruiteux, comme par exemple l'écrasé au violon. Nous avons ici une détection locale de mode de jeu. Considérant les techniques utilisant des larges bases de données de son, l'hypothèse sous-jacente à cet ensemble de techniques est le fait de pouvoir représenter un extrait sonore par un ensemble de descripteurs sonores de référence. Un échantillon sonore pourrait avoir une carte d'identité et être vu par le biais de ces analyses. Un premier exemple est le partitionnement de données appliqué à la composition. Je vous présente brièvement le travail de thèse de Frédéric Lebel. Un de ses objectifs est, à partir d'un grand ensemble de sons, de pouvoir les classifier par rapport à un ensemble de descripteurs de référence qu'il aura préalablement choisi. Cela afin de créer des ensembles de sons qu'il pourra par la suite parcourir à sa guise pour composer. Pour vous donner une idée de son processus de travail. Alors, à partir d'un ensemble de sons, qui est dans ce cas un ensemble de une cinquantaine de multiphoniques de saxophones, il les analysera par rapport à un ensemble de descripteurs de référence, pour ainsi partitionner cet espace et créer des sous-ensembles de sons, chaque sous-ensemble étant constitué de sons proches ou similaires entre eux, que le compositeur pourra parcourir par la suite à sa guise. Voici par exemple un court exemple sonore de enchevêtrement, c'est-à-dire de séquencement de ces multiphoniques, avec l'intention de construire un parcours avec le minimum de tensions harmoniques et de couleurs entre les multiphoniques. Concernant les autres techniques, elles se fondent toutes sur une technique de base qui est la suivante. En partant d'une base de données de sons analysée à partir d'un ensemble de descripteurs de référence, ça c'est très important parce qu'on peut choisir les descripteurs, on crée pour chacun de ces sons une carte d'identité, nous avons ainsi une base de données d'analyse. Ensuite, à partir de ce qu'on appelle un son cible, qu'on analysera par segment, et avec le même ensemble de références, on recherchera dans notre base de données quels sont ou quels segments de cette base correspond à chaque segment du son cible. À la sortie, on aura un son ou une séquence de sons ou une configuration de son de notre base de données correspondant à notre son cible. Ça, c'est très abstrait pour vous donner une idée plus concrète. Alors, si Philippe Manoury nous permet, considérons un extrait de On Echo, de Philippe Manoury, comme notre base de données. On les segmentera et à chaque segment, on procédera à une analyse. De l'autre côté, on aura par exemple le début de Jupiter, aussi de Philippe Manoury. Qu'on segmentera et on analysera. Par la suite, nous comparons chaque segment de Jupiter pour trouver quel segment de On Echo lui correspond. Ainsi, nous construisons une séquence formée de sons d'On Echo, cependant prenant la structure analytique de Jupiter. Peut-être une nouvelle esquisse de Philippe Manoury, qu'on pourrait appeler les échos de Jupiter. Concernant l'orchestration, je ne vais pas en parler, Yann Marèche en parlera beaucoup mieux que moi, mais l'idée c'est de pouvoir, à partir d'un son source, très rapidement, trouver une configuration orchestrale qui lui corresponde. Comme je dis, je vais passer très très vite parce que vous aurez une même meilleure explication dans la suite. La prochaine technique, qui vous a été brièvement aussi présentée par Nicolas Aubin, c'est le mosaicing ou musicing. Sous le nom de mosaicing, mais aussi de musicing pour music mosaicing, nous trouvons un ensemble de techniques développées à partir des stratégies informatiques pour la gestion de larges bases de sons. Cette technique consiste dans l'assemblage par synthèse concaténative de courts échantillons sonores d'une base de données à partir de calculs de similarité avec un son cible, comme la technique de base que nous avons présentée. À nouveau, c'est à peu près la même technique de base avec l'adjonction d'une synthèse concaténative à la fin. Comme exemple de cette technique, j'aimerais vous présenter la deuxième partie Zone Voix 1 Noir Mystérieux de l'œuvre Poetry for Dark Dolls de Marco Antonio Suarez. Ici, la voix est captée et analysée en temps réel pour contrôler le choix d'échantillons préparés préalablement. Cela permet de créer une texture organique et cohérente avec l'interprétation de la soprano, ici Valérie Philippin, et un masquage aussi partiel de la voix.
Noix.
Vous pouvez déjà avoir une idée de cette technique. La prochaine technique est la transcription abordée du point de vue des descripteurs audio. C'est dans ce contexte que j'aimerais vous présenter le travail de Aaron Einbond. Aaron Einbond travaille sur ce que l'on nomme le corpus-based transcriptions, soit la transcription à partir d'un corpus de sons, une orchestration transcription créative à partir d'une grande variété de sons de référence. Une transcription voulant prendre en compte des aspects du phénomène sonore autre que l'auteur, voulant plutôt s'appuyer sur des aspects de couleur sonore. À ce sujet, Einbond remarque que la notion de descripteur est le parfait corrélat technologique de l'écoute réduite, que dans son cas, il utilise comme un ensemble de représentations du timbre. À nouveau, j'aimerais vous présenter un court extrait de son œuvre qui s'appelle « What the Blind See » de 2009, pour alto, clarinette, basse, harpe, piano préparé, percussion et électronique. Ici, Einbond utilise comme son cible des enregistrements de sons de la nature, du pluie, du vent, de la neige. Dans notre exemple, je vous montrerai ce qu'il a fait avec le son d'un glacier. En utilisant un logiciel qui s'appelle Cathart, développé et créé par Dimo Schwartz, il créera une mosaïque transcription du son du glacier par des échantillons de sons instrumentaux. Ce que vous avez entendu, c'est juste une simulation, ce ne sont pas des vrais instruments. Par la suite, en utilisant OpenMusic, il transcrira ces données pour des instruments réels. Voici une interprétation acoustique de l'extrait auquel vous avez la partition associée. Ok. Je pense qu'il ne veut pas réagir. On va le... Vous voyez que cela peut être compris musicalement comme une manière de concilier par l'écriture des mondes musicalement très différents. Un autre compositeur utilisant à peu près la même technique est Christopher Trapani. En plus d'utiliser la transcription-orchestration, Trapani interfère dans le processus en créant des gestes et en imposant des contraintes symboliques comme des auteurs à être respectés, toujours passant par le logiciel Cathart. Peut-être le mieux pour vous expliquer cela, et de regarder ensemble une courte vidéo du compositeur où vous verrez comment il contraint les auteurs pour ensuite parcourir, en utilisant le logiciel Cathart, gestuellement les échantillons. Christopher Trapani utilise la conjonction du logiciel Cathart avec la librairie BAC dans le logiciel Max. Pour terminer, un vrai court extrait d'une vidéo que Christopher Trapani a fait pour son œuvre Five Out of Six. dont ceux que vous allez écouter sur la vidéo, ce n'est que de la simulation, ce n'est pas des vrais instrumentistes qui jouent, c'est le résultat de ces parcours gestuels dans son environnement. Ça vous donne une petite idée. Le prochain thème, c'est le gesture mapping. Ben Hackbart, compositeur, travaille avec le concept de gesture mapping ou de mise en correspondance gestuelle de son. C'est du mosaïcing, mais avec une intention de garder le profil de timbre de la cible en gardant des gestes de couleur sonore, générant des objets non identiques, mais avec des similitudes dans l'évolution de certains paramètres. Dans le cadre de son travail, Ben Hackbart a développé un logiciel AudioGuide. Voici un court extrait de son œuvre pour bande Volleys of Light and Shadows, des volets de lumière et d'ombre. Et je vais vous montrer à peu près comment est-ce qu'il a travaillé. À partir d'une maquette de son de voix enregistrée en studio, de la vraie voix, il a rentré cela dans son logiciel et a créé ensuite une séquence gestuellement similaire à partir de sons d'instruments de percussion et autres. Dans l'œuvre finale, ce qui s'appelle Performance, ces deux strates sont superposées. Comme dernier exemple musical, j'aimerais vous présenter le travail de Daniel Ghizzi sous le point de vue de la contrainte symbolique. Ici, au lieu d'avoir une cible, une référence audio, Daniel Ghizzi utilise une contrainte au niveau de l'analyse. Par exemple, dans son installation Experiments with Time, Ghizzi a travaillé avec Mathias Mosch pour l'analyse harmonique de toute une base de données d'échantillons musicaux d'époques diverses. Ghizzi, au lieu de donner une cible audio, propose à son environnement informatique la contrainte symbolique Do majeur. Le résultat est la séquence histoire de C, C History, correspondant au mois de juin de son installation Experiments with Time. On va passer aux conclusions, nous sommes presque à la fin. Alors, qu'est-ce que ces exemples nous montrent ou ce qu'ils nous proposent? Si nous revenons en arrière, nous pouvons constater que grande partie du XXe siècle a été tributaire d'une formalisation de l'espace sonore qui se fondait sur un trépied hauteur, fréquence, intensité et le temps. Le timbre, du point de vue des compositeurs, étant formalisé ou compris par le biais de ces mêmes trois paramètres. Dans le traité des objets musicaux de Pierre Schaeffer, où il y a une conscience aiguë de la morphologie sonore, tout sera aussi réduit par rapport à ce que Schaeffer nomme le trièdre de référence, temps, fréquence et intensité. Musicalement, on manipulait le timbre à partir de taxinomies ad hoc, comme la classification traditionnelle des groupes de l'orchestre, en passant par diverses répartitions et arrangements que les compositeurs en font, comme par exemple les classes de timbre dans Achorypsis de Xenakis. L'écriture du timbre au son propre a trouvé son expression principalement dans l'orchestration et par l'exploration des modes de jeu et par le biais aussi du son numérique. Les exemples bien connus sont par exemple Farben de Schoenberg ou le plus récent Metal Extension de Jan Mareš ou prenant le contre-pied aux techniques traditionnelles, le compositeur transpose le timbre de processus électroacoustique d'une pièce qui a été faite pour trompette et électronique sur l'orchestre traditionnel. Cependant, n'oublions pas les expériences de Gray, Wessel et McAdams, où le timbre commence à être décrit par des descripteurs, mais cela n'est pas le cas dans la création musicale. Scientifiquement, la définition de timbre se fait principalement par exclusion. Le timbre étant tout ce qui changerait lorsque notre espace de référence, hauteur, intensité, position et durée, est invariant. Avec l'utilisation des descripteurs audio, on se voit proposer des représentations certes partielles, cependant mesurables, autres que celles du trièdre fréquence, amplitude et temps. Quel impact pour l'écriture musicale ? De paramètres qualitatifs, le timbre devient effectivement un phénomène avec des dimensions mesurables. Cela permet la création d'échelles, de calculer des proportions, des distances et calculer des seuils permettant la comparaison numérique. Un premier pas est franchi. Ces nouvelles dimensions, pour devenir des paramètres d'écriture, des éléments porteurs de forme, doivent pouvoir être apprivoisées, comprises, apprises par le compositeur. Cela ne peut se faire sans un contexte d'essai et d'erreur, processus solitaire aussi solitaire que l'écriture musicale. Les compositeurs ont dû alors développer un nouveau solfège avant de pouvoir les intégrer dans leur musique. Ils ont dû apprendre à relier les descripteurs à des phénomènes. Il y a des caractéristiques musicales pour pouvoir anticiper et les combiner, soit les utiliser comme éléments d'écriture. Un solfège de descripteurs se profile. Cette nouvelle conscience de l'espace sonore propose alors un espace paramétrique d'écriture intégrant de nouvelles dimensions. Les compositeurs qui écrivaient avec les auteurs intensité, durée et timbre ont ajouté à leur arsenal la rugosité, le poids perceptif, la brillance, le curtosis, le skewness, l'écart type spectral, la variation et la déviation spectrale, le tristimulus, les vecteurs de chroma, sans parler de l'énergie du bruit, de l'inharmonicité et bien d'autres paramètres qu'ils arrivent à relier à leur perception. Ce qui me semble intéressant est le fait que même s'il y a des descripteurs partagés, chaque compositeur choisit les descripteurs en fonction de la qualité sonore qu'il veut manipuler ou identifier. Aaron Einbond m'écrira. Mais le point à souligner, c'est que j'ai toujours jugé le choix des descripteurs à l'oreille, comme une partie des choix compositionnels subjectifs. C'est pour cela que j'utilisais les descripteurs plutôt perceptifs au lieu des descripteurs, les guillemets sont du compositeur, scientifique comme la MFCC. José Miguel Fernandez me dira en privé qu'il choisit ses descripteurs en fonction de la qualité sonore qu'il veut identifier et ou manipuler. Et il ajoutera « Dis-moi quel descripteur tu utilises, je te dirai qui tu es. » Tous ces points nous amènent à penser que, comme le pressentait Pierre Schaeffer, il n'y a pas un timbre, mais des timbres, une série de timbres d'objets ou des timbres d'une série de sons. Peut-être la question à poser par la suite ne sera plus un espace de timbre, mais plutôt d'espace de timbre. Ce qui me rappelle, pour finir, la dernière phrase de Schoenberg au sujet du timbre dans son traité d'harmonie. Qui oserait ici réclamer une théorie ? En considérant les descripteurs audio comme des dimensions du timbre, porteuses de formes et d'informations, et en les intégrant dans leur processus d'écriture musicale, les compositeurs de notre temps, par leur exploration ad hoc de cet espace, sont en train d'enrichir l'espace d'écriture musicale, en plus de nous proposer une ou plusieurs théories pragmatiques et opératoires du timbre. Sans doute, Schoenberg serait interloqué. Merci.